Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Le Dernier Empereur, Jean Sévillia propose une biographie historique de Charles d'Autriche, 1887-1922, dernier empereur d'Autriche et roi de Hongrie sous le nom de Charles IV. L'ouvrage suit un souverain arrivé au pouvoir en 1916 à 29 ans. Dans une monarchie austro-hongroise déjà épuisée par la Première Guerre mondiale et les tensions nationales, Sévillia examine son projet de paix, ses ambitions de réforme politique et sociale, ainsi que les contraintes qui limitèrent radicalement son action, l'alliance avec l'Allemagne, la défaite militaire et la désagrégation de l'Empire. La biographie se prolonge par l'éviction de Charles, l'exil de sa famille et sa mort à Madère en 1922. Sans dissocier l'action publique de la vie privée, l'auteur insiste sur la foi catholique, le couple formé avec l'impératrice Zita et le sens du devoir du souverain. Le livre vise ainsi à réévaluer une figure souvent réduite à l'effondrement final des Habsbourg, tout en replaçant ses choix dans les possibilités étroites de son époque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, accéder au trône trop tard, Charles face à une guerre déjà perdue. Le point de départ décisif de la biographie est la situation paradoxale de Charles, il devient empereur à la mort de François-Joseph en novembre 1916, mais reçoit un État engagé depuis plus de 2 ans dans une guerre d'usure. Son accession n'est pas l'aboutissement d'une préparation politique longue et méthodique. Les décès et les drames dynastiques qui l'avaient placé dans l'ordre de succession expliquent en partie ce manque d'expérience directe du pouvoir. Sévillia montre donc un jeune souverain confronté d'emblée à des contraintes qui ne dépendent pas de sa seule volonté, perte humaine, pénurie, fatigue des populations, rivalité nationale interne et dépendance militaire envers l'Allemagne. Cette configuration empêche de juger son règne à partir des seuls résultats, puisque les marges de manœuvre de la monarchie sont déjà fortement réduites. L'intérêt du livre tient à cette attention aux conditions concrètes de la décision politique. Charles n'hérite pas d'un empire stable qui l'aurait ensuite conduit à la ruine. Il prend la direction d'un ensemble fragilisé dont la cohésion est minée par la guerre. La brièveté de son règne, de 1916 à 1918, donne ainsi à la biographie sa tonalité tragique. Elle analyse une action réformatrice et pacificatrice menée au moment où les instruments nécessaires à sa réussite se dérobent. Deuxièmement, la recherche de la paix comme priorité politique et dilemme diplomatique, Sévillia place la volonté de conclure la paix au centre du portrait politique de Charles. Le souverain ne considère pas la poursuite indéfinie de la guerre comme une nécessité abstraite, il cherche à soustraire ses peuples à un conflit qui épuise l'Empire et compromet sa survie. Cette orientation distingue Charles dans un contexte où les objectifs militaires, les alliances et les calculs de puissance dominent encore la diplomatie européenne. Toutefois, le livre ne présente pas cette volonté comme une solution simple. L'Autriche-Hongrie demeure liée à l'Empire allemand, dont les intérêts et les choix stratégiques limitent l'autonomie de Vienne. Toute tentative de paix séparée expose donc Charles à la méfiance de son allié et se heurte aux exigences des puissances adverses. L'enjeu historique est ici de comprendre l'écart entre une intention morale ou politique et sa traduction effective. Vouloir la paix ne suffit pas lorsqu'un État dépend militairement d'un partenaire plus puissant et que les belligérants restent engagés dans une logique de victoire. En suivant cet effort, la biographie restitue la part de courage politique de Charles sans effacer son échec. Elle invite aussi à mesurer combien la diplomatie de guerre enferme les dirigeants dans des choix où les concessions nécessaires à la paix peuvent paraître plus dangereuses, à court terme, que la poursuite du conflit. Troisièmement, réformer une monarchie multinationale sans pouvoir arrêter sa désagrégation, le livre ne réduit pas Charles à un souverain en quête de paix. Son programme comprend également une volonté de modernisation politique et des réformes sociales. Dans un empire marqué par la diversité de ses peuples et par les inégalités héritées de l'ordre ancien, Sévillia souligne ainsi que la monarchie austro-hongroise ne peut être comprise comme un bloc national homogène, elle rassemble notamment des populations autrichiennes, hongroises, tchèques, croates, ruthènes et d'autres communautés. Gouverner un tel ensemble implique de concilier des traditions, des langues et des aspirations politiques parfois concurrentes. Les réformes envisagées par Charles répondent à ce défi, mais elles interviennent dans une phase d'urgence. La guerre radicalise les revendications nationales, affaiblit l'administration et rend toutes transformations institutionnelles plus difficiles à faire accepter et appliquer. La défaite de 1918 accélère finalement la rupture, les structures impériales ne disposent plus de l'autorité ni des ressources nécessaires pour retenir les territoires qui s'en détachent. L'analyse de Sévillia permet donc de distinguer 2 questions souvent confondues, la nécessité de réformer l'Empire et la possibilité réelle de le sauver. Charles paraît conscient de la première, mais son règne trop court et les circonstances militaires rendent la seconde presque inaccessible. Cette tension donne au livre une portée plus large sur les limites de la réforme lorsqu'un État est déjà entré dans une crise de légitimité et de souveraineté. Quatrièmement, Zita. La famille impériale est la dimension personnelle du devoir souverain. La biographie accorde une place importante à la dimension familiale de Charles, en particulier à son union avec Zita de Bourbon-Parme. Ce choix ne sert pas seulement à humaniser un personnage officiel, il éclaire la manière dont l'empereur conçoit sa responsabilité. Chez Sévillia, le devoir de souverain n'est pas isolé de la vie privée, mais soutenu par une éthique familiale et religieuse. Charles apparaît comme un époux et un père attentif, tandis que Zita est présentée comme une présence politique et morale constante dans les années de guerre, de chute et d'exil. Cette perspective permet de comprendre la continuité de leur comportement lorsque le pouvoir disparaît. Après 1918, la famille est d'abord réfugiée en Suisse, puis reléguée à Madère dans des conditions matérielles difficiles. L'ancien empereur ne se transforme pas, dans ce récit, en figure purement nostalgique d'une monarchie perdue. Il demeure lié à l'idée d'une mission et à ses responsabilités envers les siens. La mort de Charles, le 1er avril 1922, à 34 ans, alors que Zita attend leur 8e enfant, condense le caractère brutal de cette trajectoire. En intégrant étroitement l'intime et le politique, Sévillia se démarque d'une histoire institutionnelle abstraite. Il montre comment les convictions, les liens familiaux et l'épreuve du déclassement influencent la conduite d'un ancien chef d'État. En dernier lieu, foi catholique, béatification et risque d'une lecture hagiographique, la foi catholique de Charles est une clé explicite de l'ouvrage. Sévillia décrit un souverain pour qui la pratique religieuse, la dignité de chaque personne et le devoir social ne relèvent pas d'un décor privé, mais informent les décisions et les attitudes publiques. Son opposition à la prolongation de la guerre, son intérêt pour les réformes et sa conduite durant l'exil sont ainsi interprétés à la lumière de convictions chrétiennes assumées. La béatification de Charles par Jean-Paul II, en 2004, constitue un élément important de la réception contemporaine du personnage et aide à expliquer le regain d'attention dont il a fait l'objet. Elle ne doit cependant pas dispenser le lecteur d'une lecture historique. L'intérêt d'une biographie sérieuse est précisément de faire coexister l'admiration pour certaines qualités personnelles et l'examen des erreurs, des impuissances ou des contradictions d'une action politique. Les sources disponibles indiquent que Sévillia n'occulte pas les fautes de Charles, même si son portrait est nettement empathique. Cette orientation constitue à la fois la force et la limite potentielle du livre. Elle restitue une cohérence morale souvent absente, des récits centrés uniquement sur la faillite de l'Empire, mais elle conduit le lecteur à rester attentif à la distinction entre sainteté personnelle, jugement politique et efficacité gouvernementale. Cette vigilance rend la lecture plus féconde plutôt que moins admirative. En conclusion, Le Dernier Empereur s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire européenne, aux amateurs de biographie politique et aux personnes qui souhaitent comprendre la disparition de l'Autriche-Hongrie à travers l'itinéraire d'un de ses derniers dirigeants. Il conviendra aussi à ceux qui s'intéressent au rapport entre convictions religieuses, vie familiale et exercice du pouvoir. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer le regard au lieu de ne voir dans la chute des Habsbourg qu'un dénouement inévitable. Le lecteur est invité à examiner les choix réels, mais très limitée, d'un souverain placé au cœur d'une crise militaire, diplomatique et nationale extrême. Cette approche aide à distinguer la responsabilité individuelle des forces structurelles qui pèsent sur un gouvernement, par rapport à une synthèse générale sur la Première Guerre mondiale ou à une histoire institutionnelle de l'Empire austro-hongrois. Le livre se distingue par son point de vue incarné. Sévillia relie les négociations de paix, les projets de réforme et l'effondrement impérial à la trajectoire personnelle de Charles et Zita. Sa tonalité est clairement favorable au dernier empereur et sensible à sa foi. Le lecteur qui recherche une étude entièrement détachée de toute sympathie devra donc compléter cette lecture par des travaux plus larges sur les nationalités, la guerre et la diplomatie. Mais cette empathie, lorsqu'elle est lue avec esprit critique, est aussi ce qui fait l'originalité de l'ouvrage. Elle redonne densité humaine et morale à une figure souvent résumée à un règne bref, à une défaite et à un exil. Si vous souhaitez soutenir Jean Sévillia, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.